Bien, merci. Donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, d'autant que le beau temps nous accompagne, donc c'est toujours agréable quand on vient d'ailleurs. Et je vais vous parler, non pas d'ailleurs, mais de ce qui fait que les ailleurs partagent les mêmes choses et sont soumis aux mêmes normes. Ce qui fait que c'est une façon de dire que les ailleurs sont de moins en moins ailleurs. J'ai passé 13 années dans des pays étrangers, parfois étranges, mais en tout cas toujours étrangers, et sans compter des missions de courte durée. Donc c'est vrai que j'ai passé une partie non négligeable de mon existence hors de notre territoire, en rapport avec les activités de l'Institut où j'étais chercheur. Alors, je vais vous parler des normes morales et politiques de la gouvernance globale. Morale, pourquoi ? Parce que le bien est devenu une norme politique centrale. Avant, il y a d'autres époques, c'était le juste, c'était le solidaire, c'était enfin plein d'autres registres. Mais aujourd'hui, le bien... Et le bien, évidemment, il est bon. Donc, quand je vais parler de bonne gouvernance, il y a immédiatement une charge morale qui rentre par le terme de bon. Bonne, en l'occurrence. D'autre part, global. Alors, pour ma part, j'emploie plus le terme global. Enfin, je travaille plus sur la globalisation que sur la mondialisation. La mondialisation, elle a un sens assez clairement spatial. Le monde, c'est un espace. La globalisation, elle a plusieurs dimensions qui dépassent la dimension spatiale. Donc, pour ma part, je travaille plus sur la globalisation, étant donné que, par exemple, si on parle de... on peut parler de mondialisation des normes en tant qu'extension de normes. Mais la globalisation des normes, elle m'intéresse plus en tant que, non pas extension géographique ou spatiale, mais en tant que phénomène global. C'est-à-dire, dans global, ça inclut l'idée de totalité, ça inclut l'idée d'une autodynamique qui s'entretient elle-même. Bref, je pense que la notion de globalité est plus complexe d'un point de vue de recherche que la notion de mondialisation. C'est pas pour dire que celle de mondialisation n'a pas de sens, vous l'avez compris, mais c'est pour dire que la notion de globalisation que j'emploie, elle est plus multidimensionnelle, pour parler simplement. Alors, les normes de bonne gouvernance sont globales parce qu'elles s'affirment comme globales par nature. On verra en quoi leur prétention est immédiatement globale. C'est-à-dire qu'elle est globale parce qu'il n'y aurait qu'une... Ça ne se discute pas, les normes de bonne gouvernance. Elles sont partagées, et vous verrez, j'expliquerai pourquoi elles sont partagées, mais elles sont partagées par le fait que l'économie de marché, le capitalisme contemporain, connaît une extension non seulement mondiale, mais globale aussi, parce que ça produit des valeurs globales. Et non seulement une extension à travers des pays multiples, et ceci évidemment en particulier depuis la fin de la guerre froide et la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire la fin d'une période où il y avait deux guichets, deux modèles. Quand je dis guichets, c'était pour les pays en développement. Ils allaient frapper à deux guichets. Quand l'un ne leur donnait pas assez, ils pouvaient frapper à l'autre en disant « il n'a pas voulu me donner tant, vous allez me donner plus », et ça marchait les trois quarts du temps. Donc, la globalisation contemporaine, elle se développe à grande échelle, de mon point de vue, à partir de la fin de la guerre froide, et de la fin qui est aussi la fin du XXe siècle. Le XXe siècle, il prend fin aux alentours des années 90-91, et non pas dans le calendrier. Il y a déjà la dernière décennie du XXe siècle calendérique, elle est déjà en plein dans le XXIe siècle, parce que tous les germes de ce qu'on connaît aujourd'hui sont plantés et sont en train de se développer. les normes. Alors, global, pourquoi global aussi? Parce qu'évidemment, la production des normes globales, elle est principalement réalisée par les grandes institutions multilatérales. FMI, OMC, Union européenne, Nations unies, bref, toutes les institutions multilatérales, qu'on appelait un temps internationales, mais aujourd'hui les multilatérales, disent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une conjonction. Multilatérale veut dire de plusieurs sources. Ça veut dire plus qu'international. International, il veut dire que c'était au sens où il y avait plusieurs États. Aujourd'hui, dans l'idée de multilatéral, c'est que de plusieurs endroits convergent des choses. Dans les normes globales, il y a évidemment l'idée de convergence. S'il n'y a pas convergence, il ne peut pas y avoir de normes globales. Pour ce qui concerne la gouvernance, je l'aborde en tant que... la gouvernance, je la prends comme mode d'emploi du monde global contemporain. Et je la définirai par une formule, mais ce n'est pas une définition, c'est simplement une formule. La bonne gouvernance, c'est d'une certaine façon la norme des normes. Elle inclut toutes les normes sectorielles qui se déclinent, en termes d'environnement, de démocratie, de tout ce que vous voulez, on y viendra. Et on peut considérer que c'est la norme des normes. Alors, je vais procéder en trois parties. Tout d'abord, en plaçant le triangle État, marché, société civile pour baliser le champ dont on parle. Ensuite, pour aborder des normes morales que je considère comme post-politiques et qu'on analysera une à une, à savoir la participation, la non-discrimination et l'inclusion, considérées comme des normes de bonne gouvernance contemporaine. Et vous notez au passage que ces trois termes apparaissent dans à peu près tous les discours officiels, tous les programmes de n'importe quoi, et qui sont donc des éléments extrêmement, non pas structurants, parce que dans la plupart des cas, ils ne veulent pas dire grand-chose, mais en tout cas des éléments d'une sorte d'incantation idéologique globale qui est extrêmement fonctionnelle et opérationnelle aujourd'hui. Si vous ne mettez pas un de ces trois mots dans un projet de recherche, vous avez peu de chances d'être financé. Si vous ne mettez pas ces trois mots dans un texte, vous ne passerez jamais à la télé, enfin que sais-je. C'est des termes que j'essaierai d'analyser ici en tant que norme globale. Et enfin, troisième partie, j'insisterai sur le programme de la bonne gouvernance comme dont l'élément central est la gestion des risques. Et à ce titre-là, je vois que l'intitulé du master mentionne l'environnement et les risques. Je l'ignorais, mais je vais y apporter ma contribution en l'ayant préparé. Mais enfin, ça se fait tout seul, quoi. Alors, je développerai un peu plus... quand je parlerai de société civile, j'ouvrirai un moment sur les ONG et l'action humanitaire, dans la mesure où l'action humanitaire, c'est un élément de moralisation du champ politique extrêmement important depuis le milieu des années 80, c'est-à-dire le passage du politique au moral, qui est quand même un des axes de mon propos. Et d'autre part, les ONG passent pour représenter la société civile. Ce qu'à mon avis, elles ne représentent pas, mais on le verra le moment venu. Quand je dis « elle ne représente pas », ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Alors, le triangle État-marché-société civile. Bon, il y a une époque où la société civile, c'était ce qui n'était pas l'État, et réciproquement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un troisième larron qui s'appelle le marché, et que je considère comme capital, voire dominant, vous le comprendrez progressivement dans mon exposé. Alors, si on regarde aujourd'hui les trois acteurs que je viens de mentionner, l'État, les États, que peut-on en dire? On constate un affaiblissement régulier et progressif des États. Affaiblissement lié en grande partie à leur endettement, et l'endettement est partagé par la quasi-totalité des États, c'est-à-dire les budgets en déficit pendant des années, des décennies, et donc, évidemment, qui provoque une perte de souveraineté. Donc, aujourd'hui, l'activité des politiques, c'est, dans une large mesure, de gérer les fonds dont ils disposent, beaucoup plus que faire des choix de société. Quand Mendès France disait, dans les années 60 ou 50, « gouverner, c'est prévoir », c'est évidemment prévoir, mais c'est surtout gérer les fonds dont on dispose. C'est-à-dire que quand des experts, on dit toujours qu'il y a un développement de l'expertise au détriment de la parole politique, par exemple. Mais les experts vous mettent sur un dossier, vous êtes ministre, on vous met sur, un dossier, sur votre table un dossier, vous regardez d'abord le coût du devis. Et cette démarche, vous comprendrez bien qu'elle oblitère en grande partie les choix. On paye ce qu'on peut payer. Et quand vous faites une demande, regardez les débats actuels aujourd'hui sur les finances des collectivités locales ces jours-ci, on voit très bien que le nerf de la guerre politique, c'est l'argent. Alors, l'argent n'a jamais été hors champ politique, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est déterminant et que la prise de décision politique, elle est de moins en moins souveraine, en particulier dans un monde où il y a une économie qui est et financiarisée et globale, et qui est encore plus globalisée par le caractère global de la finance internationale. On voit très bien que les mécanismes, les États, même des États aussi souverains que la Chine, ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils doivent présenter une monnaie et une balance commerciale. Enfin bref, on voit très bien qu'il y a une sorte de lisibilité des économies nationales qui est devenue un facteur politique déterminant sur leur autorité sur la scène internationale et qui mesure dans une grande part leur souveraineté. C'est-à-dire l'incantation tout seul de la souveraineté, elle ne passe plus si on n'a pas les moyens économiques d'asseoir sa souveraineté. Ce qui fait qu'il y a une dissociation entre le discours politique classique ou le discours de la science politique classique sur la souveraineté de l'État et que ça modifie à un certain point la nature de l'État. On y viendra peut-être un peu plus tard. Où j'y viens maintenant pour dire que l'État, finalement, dans ce système-là, devient progressivement une grosse entreprise. Alors, elle est publique. Mais du coup, si c'est de plus en plus une grosse entreprise, il faut la gérer comme une entreprise. D'où la bonne gouvernance, puisque vous savez certainement que la bonne gouvernance, c'est un concept qui est un concept d'école de commerce et qui est un concept qui vient du monde de l'entreprise. Qui veut dire quoi? Qui veut dire la capacité de bien piloter une société économique, une entreprise, avec une prise de risque mesurée, des performances optimisées, sans casse, sans accident. Il y a une dimension dans la bonne gouvernance, il y a l'idée de pilotage quand on l'applique à une entreprise privée. Un bon chef d'entreprise, c'est un bon pilote. Et au demeurant, quand vous lisez les journaux financiers, on vous parle des chefs d'entreprise comme des pilotes plus ou moins bons qui ont vu venir les problèmes à l'avance, qui anticipent, etc. Donc, dans la mesure progressive où l'État devient une entreprise de grande taille qui a le caractère public mais qui est de plus en plus gérée selon les mêmes méthodes que les entreprises privées, avec des gens qui ont reçu la même formation à HEC ou ailleurs, vous comprenez très bien que cette forme de convergence, d'une part, elle est globale parce qu'elle a lieu dans tous les pays, plutôt elle est mondiale parce qu'elle a lieu dans tous les pays, mais elle est globale parce que c'est une lame de fond qui produit des normes. Et cette lame de fond, elle est évidemment assise sur le néolibéralisme dominant qui règne depuis une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années, enfin une trentaine d'années. Le public, ça serait du gros privé. On parle d'entreprise publique, on parle de marché public, mais vous voyez très bien que, d'ailleurs on va encore vendre des entreprises publiques, je veux dire, j'ai rien contre les entreprises publiques, ni pour, je ne suis pas fanatique de la nationalisation, ce n'est pas la question. Mais on voit très bien que l'État gère ses biens comme un entrepreneur. Et de toute façon, il n'a plus le choix des normes et des critères en termes de compétences. Alors là-dessus se greffe un discours politique qu'on trouve dans la politique internationale, qu'on trouve dans la politique électorale, mais en même temps qui n'est pas déconnecté, évidemment, des moyens financiers et de la souveraineté. Vous ne pouvez pas tenir un discours, comme je le disais il y a deux minutes, un discours de souverainiste si vous avez un budget en déficit de X%. Donc, premier point, faiblesse des États, et qui est un phénomène partagé. Alors, j'ignore pas que d'aucuns trouvent que certaines capacités de l'État sont développées. On pourra en parler dans la discussion. Mais il me semble que la tendance de fond, c'est quand même la perte de souveraineté. Et je dis ça sans aucune nostalgie spécifique. Hein, je ne suis pas un fanatique du souverainiste, mais c'est un constat. La deuxième, donc l'État. J'en viens au marché. Le marché, il est hégémonique. Alors, hégémonique au sens de Gramsci, c'est-à-dire au sens où il prétend être la forme universelle d'organisation. L'hégémonie au sens gramscien, c'est principalement la prétention à l'universalité. Et le marché, il a cette prétention. D'autant qu'on nous dit tous les jours qu'il est, enfin en tout cas on ne nous le dit pas explicitement, mais on nous le dit indirectement, qu'il est finalement le stade ultime d'organisation économique et le plus performant ou le moins contre-performant, pour les plus raisonnables. Donc le marché hégémonique, il est hégémonique via la financiarisation du marché qui est, depuis plusieurs décennies, est devenu un facteur absolument déterminant dans les dynamiques de marché et qui s'est sorti, comme vous le savez, des diverses dérégulations qui accompagnent les politiques néolibérales en matière économique et sociale. Alors, un point important de mon raisonnement, le marché, de mon point de vue, tend à faire société aujourd'hui. C'est-à-dire à se substituer à ce qu'on appelait la société dans la sociologie historique. Le marché fait société, commence à faire société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les normes du marché deviennent progressivement les normes sociales des rapports sociaux, et non plus seulement des rapports économiques. Je fais allusion à la concurrence, à la flexibilité. Bref, j'en parle, il n'y en a que deux, mais on peut en trouver plusieurs. Je vous donne les plus déterminantes. Si la vie sociale est uniquement fondée sur la concurrence, ce n'est pas le même type de société que des sociétés de l'époque de Durkheim, ou encore où on parlait de solidarité, y compris sous les deux formes qu'évoquait Durkheim. Je veux dire, la concurrence, si elle devient une dynamique sociale fondamentale, comme elle prétend être une dynamique économique fondamentale, génère une société d'une autre nature. D'une autre nature. Ce n'est pas un changement de détail. Ça change la nature de la société. Donc le marché tend à faire société et à devenir la matrice des rapports sociaux à travers la course à la performance, la concurrence, les modèles de gestion, toutes dimensions qui aujourd'hui sont capitales dans une entreprise, dans un CV, dans l'existence sociale d'un candidat salarié, comme dans la bonne marche d'une entreprise ou d'une société, de quelque nature que ce soit, y compris dans les services publics, quand bien même on les accuse d'être improductifs et d'être improductif et de prendre trop de congés et autres balivernes, on applique les mêmes critères de performance que dans les entreprises privées. C'est bien pour ça d'ailleurs que les postiers se jettent par la fenêtre et que ça génère une certaine souffrance au travail, pour prendre cet exemple. Mais je veux dire, les mêmes normes sont en train de s'appliquer au secteur public parce qu'il est, comme je l'ai dit, de moins en moins public, mais de plus en plus non pas privatisé au sens nécessairement juridique, mais ces modes de gestion sont de type d'origine privée. Ce qui va à terme d'ailleurs générer que ça deviendra des entreprises privées, probablement. pour produire des services qui, hier, étaient publics. Alors, le marché tend à faire société, et ce qui produit la demande de réforme permanente. C'est-à-dire, quand le marché fait société, la société doit se réformer en permanence pour optimiser les performances, comme dans une entreprise, on doit optimiser en boostant en permanence les différentes prestations des uns et des autres, en modifiant les modèles économiques, etc. Bref, le même modèle les mêmes logiques d'optimisation sont mises en place, et à son tour, la société, me direz-vous, devient une vaste entreprise. Alors, j'en viens à la société civile. Je ne vais pas m'attarder sur la définition de la société civile. Au demeurant, il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas très contradictoires. La société civile, quand on évoque les normes de bonne gouvernance, c'est-à-dire ces normes qui sont répétées par les institutions multilatérales que j'ai évoquées tout à l'heure, et qui apparaissent, qui sont formulées dans des textes produits par ces institutions, la société civile, elle est la clé, elle serait la clé ou un élément majeur de la production du consensus démocratique. Alors, parmi les normes de bonne gouvernance, il y a la transparence, qui est une condition de la transparence démocratique des décisions. Vous avez aussi la participation de la société civile. Il y a d'autres critères, hein, il y en a une dizaine ou une douzaine, mais je pense ceux-là. La participation de la société civile, ça veut dire quoi? Et comment se réalise cette participation de la société civile? Comment on l'envisage? Comment on l'entend? Alors, c'est là que j'en viens un moment aux ONG sur lesquelles j'ai pas mal travaillé, à une époque où finalement les ONG n'étaient pas encore un sujet qui avait la moindre dignité académique. Alors, j'y suis rentré comme militant au sens modeste du terme, ou en tout cas modéré, puisqu'il s'agissait d'ONG de santé, de soins de santé primaire, où j'ai participé, voire que j'en ai présidé une. Et il s'agissait donc c'était dans les années 75, 80, 85. Dans ces années-là, les ONG étaient principalement... dans ces années-là, jusqu'à l'année 2000, et même jusqu'à 2005, dans les universités, vous n'aviez pas de formation, de séminaire dans les écoles doctorales sur les ONG. Dans la formation doctorale à laquelle j'appartiens, en 2000, j'ai commencé mon cours qui est ONG humanitaire, entre autres concepts d'intitulé. Et c'était le seul. Et il y avait très peu d'enseignements, alors qu'aujourd'hui, vous avez des formations, vous avez même des formations et des universités qui vous forment, y compris des formations professionnalisantes qui vous donnent accès à des emplois dans les ONG, dans les fondations, etc. Il y a un marché qui s'est ouvert. C'est récent, ça date d'une petite quinzaine d'années. Alors, les ONG, j'en parle donc brièvement, dans la mesure où, dans les normes de bonne gouvernance, elles sont censées représenter la voix de la société civile. Alors, d'abord, elles ne représentent pas les voix de la société civile, elles représentent elles-mêmes, ce qui n'est pas honteux, étant donné qu'elles n'ont pour seul instrument de pilotage qu'un conseil d'administration et qu'elles sont élues par aucun corps social qui voudrait dire qu'elles sont représentatives de quoi que ce soit. Donc, une ONG, premier point. Deuxième point, les ONG sont aujourd'hui... sous la loi de 1901 sur les associations, mais elles n'ont strictement rien à voir d'un point de vue réel. Ce n'est pas des organisations de la loi de 1901 comme une association de pêcheurs à la ligne. En disant ça, je parle principalement, et c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé, des grosses ONG. Exemple, MSF, Action contre la faim, Médecins du Monde, pas seulement sur la santé, mais les grosses. celles qui sont transnationales, celles qui ont des gros budgets, qui ont une visibilité médiatique, etc. Donc, aujourd'hui, il y a plein de petites associations, mais elles ont accès, elles ont un bien moindre accès au financement. Elles ont une notoriété, une visibilité extrêmement modeste. Et les grosses remplissent le paysage, si je peux dire. Ce qui n'empêche pas, au niveau local, de petites associations de rester dans une logique associative de bénévolat, etc. Parce que le bénévolat, il y a belle lurette qu'il a disparu des grosses ONG. Il y a quelques bénévoles marginalement, pour mentionner qu'il y en a quelques-uns et pour montrer que c'est populaire, finalement. Mais les grosses ONG, c'est des entreprises, et c'est des entreprises de moralité. J'emprunte le concept d'entreprise de moralité à Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, qui un jour a lancé ça dans un colloque auquel je l'avais invité, et j'ai retenu depuis ce concept en lui renvoyant toujours la paternité, parce que je trouve qu'il est d'une grande pertinence. Les ONG sont les grosses ONG sont des entreprises de moralité, c'est-à-dire elles vendent du bien à des gens qui se font du bien tout en faisant du bien à d'autres. Faire du bien à d'autres, c'est la livraison de services, de care, à des populations victimes de sinistres, de dictatures, enfin bref, vous voyez suffisamment les mailings et les publicités sur les appels aux donateurs. Donc, entreprise de moralité. Alors, pourquoi moralité, vous l'avez compris. Pourquoi entreprise... Alors, si, on fait du bien à autrui, mais on se fait du bien à soi aussi. Pour l'image de soi-même, c'est pas négligeable. Et il y a plein de gens qui n'iront jamais dans le pays du tremblement de terre, au Mexique, etc., pour eux, mais qui envoient, qui donnent de l'argent à l'ONG pour la petite Pépita qui est restée sous les décombres d'un immeuble. Ça vient de se reproduire, mais il y a 25 ans, il y avait une fameuse petite Pépita où il y a eu de la télévision pendant des heures jusqu'à ce qu'elle expire. Celle-là, je crois que l'actuelle, j'espère qu'elle a été sauvée. L'autre, je crois qu'elle était décédée, mais j'en suis pas sûr. Bref. Alors, qu'est-ce qui est vendu ? C'est de l'émotion. Enfin, qu'est-ce qui est produit, plutôt ? Ce qui est vendu, c'est du bien. Ce qui est produit, c'est de l'émotion. Donc, le levier émotionnel dans l'action humanitaire... Ce n'est pas à vous que je voulais apprendre, vous avez regardé la télé et des journaux. Le véhicule est émotionnel. Ce qui n'est pas une critique, encore une fois. Je suis dans le constat. Simplement, il faut savoir ce qui marche, pour faire quoi, comment. Il ne s'agit pas de jugement de valeur pour ou contre, pour le moment. À la fin, en conclusion, éventuellement, je me lâcherai un petit peu, mais vous aurez tout le droit vous avez le droit d'être d'un avis différent. Le bien pour soi aussi, c'est-à-dire l'auto-gratification de celui qui donne pour le bien d'autrui, ce n'est pas négligeable comme dimension. Hein. L'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas de l'argent, mais c'est de la valeur. Et tout à l'heure, on verra en quoi les valeurs financières et les valeurs morales sont en pleine hybridation aujourd'hui. Alors, le marchandise morale... non-profit, il n'y a pas de profit financier dans les ONG, exact. Mais il y a production de marchandises morales, donc il y a des profits moraux qui circulent, des profits symboliques. Le bien dont je parlais, c'est de la valeur. Alors, je suis en train, vous comprenez, de valeur économique et financière et valeur morale. Mais vous allez voir tout au long de mon exposé, vous avez commencé à le voir, je suppose, que je suis en train d'expliquer que valeurs morales et valeurs financières sont en train de se rentrer l'une dans l'autre et de se confondre avec des effets d'une grande durabilité et d'une grande importance dans le monde d'aujourd'hui. Une autre notion que je vais ajouter à l'instant, c'est celle de marchandise morale que j'ai utilisée depuis une dizaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est que quand on met ce concept sur Internet, je suis le seul, ou à peu de choses près, à apparaître, ce qui me fait ni chaud ni froid. Mais ce qui veut dire qu'il y a une réticence à intégrer le concept de marchandise morale comme légitime, qui n'est pas négligeable. De même que pour avoir été un des premiers critiques de l'action humanitaire, j'ai bien senti la réticence dans les années, à la fin des années, au milieu des années 90. À partir de 2005, vous êtes invité. Mais au milieu des années 90, il y avait une réprobation morale à critiquer. Et alors, parler de marchandise morale, vous provoquez immédiatement une terre... Bref, je constate simplement que sur Internet, ce n'est pas un terme qui fait florès. Or, il dit des choses très précises, en tout cas très claires dans mon esprit. Ça veut dire que les entreprises de moralité vendent des marchandises morales, ce qui n'est absolument pas honteux. À la sortie, il y a des services pour des gens dans le malheur. Hein. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement de valeur ou la réprobation. Mais quand on vous vend des abonnements à une ONG par prélèvement mensuel sur le, quai des, sur le parvis des gares, qui oserait dire que ce n'est pas des marchandises morales? Alors là, c'est enregistré, donc apparemment j'ai le seul la parole, mais dans la discussion, s'il y a des objections, ça sera intéressant de les aborder. Alors, une dimension importante, l'action humanitaire, alors les ONG des années 60-70, c'était des ONG de développement. Elles avaient commencé comme petites et elles étaient devenues grosses. C'est comme le CCFD ou des organisations comme ça. Progressivement, à partir de la fin de la guerre froide et à la montée en puissance de l'humanitaire contemporain. Quand je dis humanitaire, ça n'a rien à voir avec la Croix-Rouge, Dunant, etc. On remonte toujours aux origines pour noyer le fait qu'il y a un humanitaire qui est né d'une conjoncture idéologique de fin de guerre froide. Et qui était un instrument de lutte contre l'Union soviétique, en particulier au moment de la guerre en Afghanistan, et qui était financé par les États-Unis et par des fondations les plus néolibérales qui soient. Et donc, l'humanitaire est né dans un contexte très particulier de fin de guerre froide. À l'époque, Kouchner, Broman et d'autres était profondément convaincu que l'échec du développement, qui était déjà en grande partie consommé, l'échec du développement était dû aux sanglots de l'homme blanc, selon l'expression de Bruckner. C'est-à-dire qu'on avait voulu faire d'une sorte de charité, qu'il y avait un parfum chrétien, mais que finalement c'était l'économie de marché, la performance économique qui allait sauver ces gens-là. Et à l'époque, on prenait comme exemple la Corée du Sud, qui était devenue un dragon, après avoir été dans une relative misère après la fin de la guerre de Corée. Donc, un contexte idéologique, pour dire simplement que l'humanitaire n'est pas né dans un contexte anodin. Il y avait un contexte idéologique et politique, fin de guerre froide. Et donc, progressivement, c'était l'époque où on discutait, il y avait les gens qui étaient pour le développement, j'en étais, et ceux qui étaient pour l'humanitaire, qui disaient « mais le développement, c'est fichu, c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu ». L'entreprise, donner les capacités aux gens de se former, etc. Bon, un raisonnement typique, basique, néolibéral, le marché, c'est la solution, en gros, pour faire court. Mais c'est ça que ça voulait dire. Puisqu'aussi bien les tiers-mondistes, puisque c'est du tiers-mondiste qu'il s'agit quand on parle de développement, les tiers-mondistes étaient non seulement supposés d'être chrétiens, mais ils étaient présumés être pro-étatiques, et que le néolibéralisme préfère laisser l'État loin de toute activité économique. Donc on est bien dans un contexte idéologique de fin de guerre froide et de tensions idéologiques. Donc la montée en puissance de l'humanitaire dans les années 90, elle aboutit à l'humanitaire d'aujourd'hui. Je ne vais pas développer ça puisque c'est qu'une annexe de mon propos, mais les grosses ONG humanitaires sont aujourd'hui exposé à la concurrence d'un dernier acteur qui lui était émergé dans les années 2010 en France, mais qui aux États-Unis est extrêmement développé, c'est les fondations, et en particulier les fondations d'entreprise. Pour faire le bien, comme acteur du bien. Aux États-Unis, c'est la fondation Bill Gates qui est emblématique, et les États-Unis, ils aiment bien mettre le nom du chef d'entreprise en tête parce que, bon, même sans être Trump, il y a un ego un peu gonflé. Mais en France, c'est plutôt l'entreprise. Les fondations d'entreprise, c'est Total, c'est Danone. On ne met pas le nom du chef d'entreprise, c'est moins égotiste. Je ne veux pas dire par là que c'est mieux ou moins bien, mais ce que je veux dire, c'est que l'acteur nouveau est en train de rentrer à grande échelle sur la scène et à travers des actions qui revendiquent à la fois la performance économique et la volonté sociale, si je peux dire. Et ça donne, par exemple, les investissements sociaux, social bonds, qui revendiquent un investissement à risque avec l'affirmation qu'on sera plus performant pour réaliser du développement sur le terrain que des programmes publics ou multilatéraux. Et tout ça est en train de se développer à grande échelle. Ce n'est pas le sujet central, donc je ne développe pas. Mais l'époque des ONG est aujourd'hui légèrement fragilisée et on va vers acteurs moraux nouveaux, les entreprises, pour ce qui concerne l'Europe, et en gros, le gros business d'un point de vue global. Plus le business est gros, plus il a besoin de se blanchir par des activités morales. Puisque les marchandises... Alors, quand je dis se blanchir, c'est pas parce que je considère que l'entreprise privée est par nature toxique. C'est simplement parce que j'aime pas trop avaler les couleuvres, et on peut pas à la fois ouvrir un orphelinat pour soigner les enfants des mineurs qu'on a silicosés. Et c'est ça que fait le patronat, le patronat des fondations. On tue les gens au travail ou par leurs conditions de travail, mais on va faire de l'action humanitaire pour leurs orphelins. Vous comprenez bien que c'est quand même un piège à couillon. Mais vous savez comment on appelle ça? C'est connu. Gagnant-gagnant. Quand vous voyez gagnant-gagnant, regardez bien en l'air, il y a des pigeons. Alors, je vais bientôt revenir au fil conducteur. Simplement, pour terminer sur ce point, je vais préciser que l'humanitaire, et j'en resterai là, ça suppose trois conditions. L'humanitaire des années 90, du début du 21e siècle, on est encore dedans, mais comme je vous ai parlé des fondations, c'est en train de bouger. Ça va aller plus vite qu'on croit. Ça suppose l'affirmation que les droits de l'homme sont universels, ce qui est un postulat facile à partager, mais que mais quiconque au défi de prouver. C'est une assertion. C'est un souhait, mais c'est un postulat. Deuxièmement, il faut construire la figure d'une victime qui souffre, enfin, qui permette de produire une charge émotionnelle pour permettre aux entreprises de moralité humanitaire de trouver des donateurs. Et enfin, l'ingérence, la fameuse ingérence kouchnerienne, qui a produit beaucoup plus de problèmes qu'elle a trouvé de solutions. Quand vous avez un de ces trois éléments qui est absent, il ne peut pas y avoir d'action humanitaire. Donc je répète, droit de l'homme universel, construction de la victime. Par construction, je ne veux pas dire qu'on l'invente, je veux dire qu'on construit la figure de la victime. On est ici en sciences sociales, vous savez ce que ça veut dire, la construction d'une représentation. Ça ne veut pas dire la chair et les os de quelqu'un. Et troisièmement, l'ingérence. C'est-à-dire le fameux droit d'ingérence, qui est parti du devoir d'ingérence. Les médecins qui ont signé le serment d'Hippocrate, ils ont le devoir de soigner. Le problème, c'est que ces mêmes médecins qui étaient embarqués dans MSF, Médecins du Monde et autres, Kouchner, qui est médecin, a transformé du droit au devoir, et donc ingérence. Et on sait que ça a produit autant de résultats. Mais on rentre par effraction, en quelque sorte, chez les tiers. Voilà. Alors, j'en reviens. Donc ça, c'était venu avec la société civile et les ONG. Donc vous avez compris que les ONG, ce n'est pas simplement quand la bonne gouvernance convoque les ONG dans des conférences internationales. Vous comprenez bien que c'est de quelle société civile on parle, de quelle société on parle. Les sociétés, elles sont nationales. Elles sont régionales, mais je veux dire, de quelle société on parle quand on parle de société civile convoquée dans une conférence internationale à travers la présence d'ONG. Alors, les ONG, elles sont d'une part très dépendantes financièrement. Le principal bailleur en Europe, c'est l'Union européenne. Donc, à part MSF, elles sont toutes les pieds et poings liés par rapport à leur bailleur. Est-ce à dire qu'elles n'ont pas le droit d'initiative et qu'elles n'ont aucune capacité alternative? Certainement pas, puisque les ONG se prétendent, et en partie à juste titre, comme proposant des alternatives. Le problème, c'est qu'elles ont énormément de contraintes pour que ces alternatives soient à un certain point marginales, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Alors, les ONG, dans les conférences internationales, où elles apparaissent comme représentantes de la société civile, elles sont en partie des alibis participatifs. Et en particulier, dans les grandes conférences internationales, soit elles ont accepté le programme et elles prennent la parole dans le cadre qui a été prescrit par l'agenda qui a été produit par l'organisation multilatérale dont il s'agit, soit elles en contestent plusieurs points, auquel cas elles vont dans un forum parallèle. Vous savez, les grandes conférences internationales, le climat à Rio, etc., dans les grandes conférences internationales qui sont les kermesses de la globalisation et des normes de bonne gouvernance, les ONG, quand elles ne peuvent pas rentrer dans le forum principal, sous les fourches codines de la programmation des institutions multilatérales, elles vont dans un forum parallèle, où là, en effet, elles ont un peu plus de capacité alternative à faire des propositions ou à critiquer le programme principal. Mais, sur le papier, dans l'histoire de la conférence, la tenue du forum parallèle va être mentionnée. Elles ont participé, elles étaient là. Elles étaient à Pékin, elles étaient à Johannesburg, elles étaient à Rio. Mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas y aller. Encore que récemment, MSF a refusé d'aller à Istanbul, il y a 6 mois, je crois, vu l'évolution du régime en Turquie. Mais vous comprenez très bien que même si vous y êtes du bout du doigt, le bout du doigt, il y a un peu. Et que dans la visibilité de ces conférences internationales, ça rentre dans une dynamique d'inscription de normes. Et donc les ONG sont en partie, je dis bien en partie et non pas en totalité, servent d'alibi en partie. Alors, j'en viens à la deuxième partie de mon exposé, que j'ai intitulé « Des normes morales post-politiques ». Alors, le politique, dans le temps, si j'ose dire, mais je dis ça sans nostalgie, c'est un peu de la provocation d'employer cette expression, le politique, ça avait à voir avec la citoyenneté et avec des choix de société. Il y a d'autres définitions du politique. À une époque, c'était l'État. Enfin, vu l'état de l'État aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut peut-être faire attention à s'appuyer sur des choses qui ne sont pas trop vermoulues. Choix de société et citoyenneté. Alors, je voudrais aborder, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 normes, en commençant par la première, participation. La participation, et en l'occurrence celle de la société civile, mais la participation d'un point de vue général, est une norme qui aujourd'hui est extrêmement affichée. C'était une norme dans le développementalisme. Dans les années 80, les ONG disaient il faut que les gens locaux participent au programme, sinon ils ne se l'approprieront pas. Vous vous rappelez je dis vous vous rappelez, mais ça n'a pas changé. Le discours, le même discours circule aujourd'hui. Mais simplement, y compris dans des ONG plus humanitaires ou plus dans l'urgence, mais les urgenciers ont compris qu'il ne suffit pas de sauver la vie des gens, il faut encore que le lendemain, ils puissent manger à leur faim ou trouver des médicaments. Sauver les gens la vie des gens pour 48 heures, c'est bien, mais ça ne mène nulle part. La participation est une norme politique et dans la bonne gouvernance, ça s'appelle participation de la société civile. Alors, évidemment, la participation, c'est une condition de transparence et de consensus démocratique, puisque s'il n'y a pas de participation des gens, et d'un point de vue plus général de la société civile, on peut considérer que les prises de décision sont opaques, elles sont technocratiques, elles sont solitaires, etc. La participation, aujourd'hui, elle est principalement envisagée à travers la notion de partie prenante, c'est-à-dire de stakeholder en anglais, et l'anglais fait très bon ménage avec la gouvernance, la bonne gouvernance, bien sûr. Dans la bonne gouvernance, il y a participation de la société civile, mais aussi participation des parties prenantes. Alors, qu'appelle-t-on partie prenante aujourd'hui? Eh bien, tout et n'importe quoi. Partie prenante, on parle même de partie prenante des entreprises. Partie prenante dans les entreprises, c'est le patronat, c'est le staff, c'est les employés, c'est en fait tout le monde. Et c'est pour ça que les entreprises commencent à parler d'écosystème économique. Mais on y viendra tout à l'heure, surtout qu'apparemment l'environnement vous intéresse un petit peu. Mais la notion de, d'écosystème est employée à tout propos, y compris hors du champ de l'environnement. Je ne développerai pas ça parce que c'est hors de mon sujet, mais j'attire votre attention là-dessus, dans cette formation où apparemment on parle d'environnement. La notion d'écosystème qui, originellement, est d'origine environnement, elle parle d'environnement, aujourd'hui on l'applique, il y a un écosystème médiatique, un écosystème économique, un écosystème politique. Je veux dire, ça remplace l'idée de antérieure de système. C'est-à-dire que tous les systèmes ont tendance à devenir éco. Alors, éco, ça veut dire écologique, mais n'oubliez pas quand même que ça veut dire aussi économique. Fin de parenthèse. Donc, le stakeholder, est-ce que c'est quelqu'un qui a réellement la parole dans le débat? Ou c'est simplement une tranche du saucisson? Le stakeholder, c'est une partie prenante. Est-ce à dire qu'il a, il a une voix? Être partie prenante d'une chose. Et partie prenante, donc on va vous demander, en gros, les parties prenantes, on leur demande leur avis par une enquête de satisfaction. Ce n'est pas au moment de la programmation, ce n'est pas au moment du programme qu'il y a débat. Il y a débat sur l'exécution du programme. Est-ce que vous mesurez la différence en termes de participation? On vous interroge quand c'est fini. Et si vous êtes poli, comme sur Internet, on vous demande sans arrêt à chaque pas si vous êtes content du service. Vous savez que c'est quelqu'un des malheureux qui est employé téléphonique en Tunisie ou au Maroc, vous n'allez pas dire que c'était dégueulasse et qu'il ne parlait pas français, etc. Vous allez dire, oui, oui, satisfaction. Ou alors à la gare, vous appuyez sur des boutons, même si on vous a craché, enfin, d'ailleurs, j'allais dire, on vous a craché la gueule au guichet. Mais là, c'est moi qui deviens un peu réactionnaire, dans le sens où on dit que les employés des services publics sont des glandeurs qui foutent rien, ce qui est un discours idéologique avéré et qui est inexact factuellement. Et s'ils font ça, c'est qu'ils sont malheureux, c'est qu'ils souffrent. Ça s'appelle la souffrance au travail. Bref, donc je me corrige moi-même et je me censure moi-même, et vous m'excuserez la formule, mais en même temps, ça m'a permis de la commenter. Le stakeholder, ça fait partie d'un processus de gestion et non pas de débat. Le stakeholder, il marche dans le système. On ne l'omet pas, il est là. Et on lui demande à la fin de valider. Et il valide. Ça, c'est une norme de bonne gouvernance. Ça s'appelle la participation dans la bonne gouvernance. Le champ, le domaine, l'agenda, il est imposé, pas discuté. Puis on participe comme partie prenante. Et il y a eu participation. Et donc, l'agenda a été décidé de manière transparente. Emballé. Combien de choses fonctionnent comme ça aujourd'hui? Ça, c'était la première norme de participation. La deuxième, la non-discrimination. La non-discrimination, vous êtes d'accord avec moi que c'est une norme typiquement morale. Morale au sens où elle vise la dignité de personne. Donc, la non-discrimination, à quel sujet l'applique-t-on? Quel est le sujet dont on parle dans la norme de non-discrimination? Alors, je considère qu'on parle d'un sujet qui est largement naturalisé et qui est l'espèce humaine, c'est-à-dire les hommes de l'espèce humaine, hommes et femmes, ne doivent pas être discriminés en tant qu'espèce humaine. On parle de dignité humaine. Donc, la dignité humaine suppose qu'ils ne soient pas victimes de discrimination. Donc, vous voyez très bien que ce n'est pas un sujet précis, individuel, une personne, mais c'est un sujet collectif. Quand je dis espèce humaine, je le dis aussi à dessein, puisqu'il y a un effet de naturalisation, espèce humaine dans la diversité des espèces. Il y a les espèces humaines, animales, végétales. Bon, Ce n'est pas par hasard qu'on est à une époque où la souffrance animale devient un sujet chaud. L'espèce humaine doit cohabiter sur la planète avec les minéraux, les végétaux, les animaux, bref. Pour faire un environnement paisible et durable. Donc, on voit très bien que le sujet de la non-discrimination, il est très naturalisé, naturalisé, c'est-à-dire mis dans la nature. Et du point de vue des sciences sociales, c'est une question problématique. La question, encore une fois, n'est pas d'être pour ou contre, c'est d'analyser le phénomène. Et donc, la non-discrimination, elle est présentée comme un droit humain. On disait droit de l'homme dans les années 90, aujourd'hui je vous rappelle qu'on dit droit humain. De l'homme à l'humain, vous voyez très bien qu'il y a un petit pas de naturalisation. On passe à l'espèce dont je parle. Donc le sujet de la non-discrimination, ceux qui doivent être non-discriminés, c'est des sujets qui sont largement naturalisés et en conséquence d'une certaine façon post-politique. Ce n'est pas des acteurs politiques. Ce n'est pas des citoyens. L'acteur politique par nature, c'est le citoyen dans une société politique, dans un État, mais disons dans une société politique. Le sujet naturalisé, donc, c'est l'homme dans ce cas-là, victime de non-discrimination, c'est un exemplaire de l'espèce qu'on a offensé en le discriminant. La discrimination, elle est ethnique, elle peut être raciale, sexuelle, religieuse. Elle suppose des stéréotypes qui essentialisent les sujets dont on parle. Il faut essentialiser la race, l'ethnie, le sexe, la religion. Bon, aujourd'hui, on a sacrément essentialisé la figure du musulman. Essentialiser, ça veut dire on en fait une entité cohérente, un stéréotype blindé, inaltérable. Vous savez très bien que c'est un vrai problème en sciences sociales, aussi bien qu'en politique d'ailleurs. Évidemment, il est beaucoup plus facile d'essentialiser des sujets naturalisés que des sujets qui sont des sujets sociaux. Donc, l'homme tend à devenir un sujet biologique, avec sa vie comme capital et sa capacité de consommation. Parce qu'un autre concept que j'utilise, c'est la notion de citoyen-consommateur. Je pense que, la notion de la dignité, comment dire, dans une société où le marché tend à faire société, sont citoyens ceux qui peuvent consommer. Ça veut dire qu'ils doivent être solvables. Et ça veut dire qu'après, il faut gérer les autres. Les autres, c'est quoi? C'est les SDF, c'est les réfugiés, c'est tout ce qui est non inclus. On va y venir après à l'inclusion. Du coup, la dignité politique de quelqu'un, elle est largement mesurée à sa capacité de consommer. Alors, quand je dis consommer, ce n'est pas seulement des dentifrices ou des crèmes à raser, ou des boîtes de cassoulet. Consommer, c'est aussi consommer des marchandises morales, des marchandises, des valeurs symboliques, des marchandises religieuses, ça existe les marchandises religieuses, des marchandises politiques, toutes les marchandises que vous voulez. Par marchandise, j'entends tout ce qui peut faire valeur morale ou financière et qui est proposé en termes d'offres et de demandes et donc qui fait marché. Et donc, l'homme sujet biologique, avec sa vie comme capital, sa vie biologique comme principal capital, sa capacité de consommer pour être citoyen consommateur, qui est immergé dans une communauté morale. Communauté morale, pourquoi j'emploie cette notion? Parce que dans les réseaux sociaux, les communautés morales fonctionnent à plein. Vous parlez surtout à des gens qui partagent la même vision du bien que vous. C'est à eux que vous vous adressez. Qui partagent les mêmes émotions morales. Et donc, on partage aujourd'hui, et sur Internet et hors Internet, notre commune espèce, et une commune morale. Et là, vous avez tous les éléments d'un consensus global potentiel. Quand je dis global, c'est parce que ces valeurs sont sans frontières, vous l'avez bien compris, et que la morale est sans frontières, l'espèce est sans frontières, et donc on a un effet de globalisation manifeste. Et en même temps, un effet de construction d'un processus, d'un processus de production de consensus. Parce que l'objectif de la globalisation, elle n'a aucun avenir si elle ne produit pas une société civile globale. Eh oui. Il ne peut pas y avoir de globalisation durable, in fine, s'il n'y a pas une communauté humaine elle-même globale qui va fonctionner en acceptant les normes consensuellement qui sont proposées, qui sont les normes globales. Donc ça, c'était pour la non-discrimination. Ce qui m'a permis d'aborder la nature du sujet à qui s'adressent ces normes. Troisième norme, l'inclusion. Vous savez qu'aujourd'hui, l'exclusion est la pire des infamies, avec d'ailleurs la non-discrimination. C'est-à-dire subir la discrimination, subir l'exclusion. Alors, il y a un rapport entre la discrimination et l'inclusion, j'y viendrai pas, mais il est évident. Alors, l'inclusion, est-ce que c'est politique ou c'est moral ? La question, c'est de savoir si, quand vous parlez d'inclusion ou d'exclusion, c'est par rapport à une communauté politique ou à une communauté morale. Vraie question, parce qu'aujourd'hui, il y a de quoi hésiter. Inclusion dans quoi ? Le marché des citoyens consommateurs ? Hypothèse. Une société civile globale ? Qui serait partie prenante du monde global, puisque de toute façon, on n'a pas le choix, on ne nous laisse que le statut de partie prenante. Une inclusion économique des citoyens consommateurs, une inclusion financière, par exemple, le microcrédit, comme vous le savez, a pour objectif l'inclusion financière, parmi d'autres objectifs. Or, le microcrédit qui était d'abord réservé aux pays en développement en Inde et Bangladesh, et que je connais d'assez près pour avoir travaillé au Bangladesh, le microcrédit maintenant est appliqué depuis une dizaine d'années en France, en gros en Europe. On sait parfaitement que l'ajustement structurel qui a été appliqué dans les années 80 aux pays africains, aux pays en développement, est aujourd'hui ce qu'on nous vend sous le nom de réforme. C'est l'ajustement structurel. Développement du secteur privé, partenariat public-privé, enfin, toute la litanie que vous connaissez, c'est de l'ajustement structurel. Quand M. Fillon parle de réforme, il parle d'ajustement structurel. Et les autres aussi, d'ailleurs. Inclusion financière, inclusion sociale, par la consommation principalement, parce que le marché fait société. Et on voit très bien, il suffit d'ouvrir la télévision un quart d'heure, que l'une des formes principales d'inclusion dans la société, c'est bien de consommer. Si vous connaissez d'autres méthodes, il faudra le signaler dans les discussions, parce qu'elles sont rares. Et pourquoi par la consommation? Parce que le marché a tendance, moi je dis fait société, mais je serais plus prudent, est en train de faire société. J'en viens à la troisième partie, le programme de la bonne gouvernance. Il y a un programme central et unique, c'est la gestion des risques. Risques politiques, risques sociaux, risques naturels. Parce qu'un bon pilote d'entreprise, c'est celui qui anticipe, qui gère les risques avant qu'ils deviennent toxiques pour les performances. Les débats sur le terrorisme actuellement sont symptomatiques. La gestion des risques est au cœur du débat politique français, et dans d'autres pays aussi d'ailleurs. Elle peut être le prétexte aux politiques migratoires, elle alimente une bonne partie du débat politique. Vous vous rendez compte à quelle échelle ? La gestion des risques, elle oblitère certaines normes démocratiques avec l'état d'urgence, etc. Enfin, la gestion des risques, elle est en train de se substituer à plein d'autres programmes qui étaient ceux de l'État comme entité politique il y a une cinquantaine d'années. Alors, ça m'amène à parler de la peur comme instrument de gestion. Et Dieu sait que l'époque est favorable pour lever le lièvre. Faire peur aux gens est devenu un instrument de gestion. Les réformes permanentes, comme vous le savez, génèrent une anxiété chronique de la part des salariés, perte d'emploi en particulier, et la peur de la perte d'emploi remplit les partis populistes. C'est une évidence. Ce n'est pas les seuls, mais c'est une bonne filière. La perte de la perte de statut et d'emploi. Quand vous regardez les études sur la clientèle des partis populistes divers qu'on trouve en Europe, par exemple, c'est tout à fait symptomatique. Et les électeurs de Trump, c'est du même tabac. Perte de statut. Ce n'est pas les grands blancs, c'est les petits blancs qui ont voté pour Trump, etc. Enfin, j'en passe, mais vous voyez la logique de ce que je veux suggérer. C'est ceux qui ont peur de perdre quelque chose, et on dit que c'est aussi ceux qui ont perdu dans la globalisation ou la mondialisation, ce qui n'est pas faux. Bon, chacun sait aussi que les phénomènes dont je parle sont doublés, enfin pas doublés, mais tout ça baigne dans un creusement des inégalités qui est évidemment un élément que je n'ai pas mentionné, mais qui est majeur dans le paysage. Hein. On ne peut pas penser sans le creusement des inégalités la moindre question politique et sociale aujourd'hui. Sinon, on est d'à côté de la plaque. Donc, cette angoisse de perte de statut, de perte d'emploi, génère, et ce qu'on appelle plus globalement la disruption permanente, selon le terme de Stigler, cette visibilité des risques, cette inflation des risques réels ou verbalisés, elle crée une atmosphère très particulière d'insécurité chronique qui devient un instrument de gestion des risques et qui fragilise les acteurs sociaux, les acteurs politiques et sociaux, et donc qui les amène... Bon, le grand débat sur la loi travail, dont on n'est pas encore sorti, mais en gros... qui se déroule avec ou sans le consentement des gens, on voit très bien qu'il installe, il s'appuie sur une insécurité, il provoque une insécurité chronique, et qu'en même temps, il est légitimé par le prétexte de la gestion des risques. Si on ne faisait pas cette loi, on ne serait pas performant et il y aurait encore plus de chômage dans 10 ans parce que c'est les autres qui auraient attrapé le marché. Le débat, c'est après, parce que je vois que vous levez la main. Mais je n'ai pas d'objection à ce qu'on parle maintenant. Hein. Bon, alors, je me conforme aux règles, aux normes. Un bon pilote, comme le chef d'entreprise du MEDEF, évite et gère la prise de risque. Donc, la précarité et la flexibilité qui génèrent toute la disruption et l'angoisse permanente dont j'ai parlé instaurent un univers de peur chronique. Et dans cette peur chronique, il est plus facile, évidemment, de faire passer ce qu'on appelle des réformes, dans le vocabulaire contemporain, indépendamment de la réalité, de l'intérêt politique ou économique de ces réformes. C'est pas de ça qu'on débat. Je parle des processus que j'observe. Qu'est-ce qui sort de tout cela ? Qu'en sortent de tout cela le populisme et le terrorisme ? Est-ce que c'est surprenant ? Il me semble que non. Je veux dire par là, donc, que quand la peur devient un instrument de gestion, cela génère le populisme et le terrorisme, qui sont deux phénomènes différents, mais qui résultent finalement de la même... dynamique sociale ou absence des dynamiques sociales, appelons ça comme on veut. Je vais conclure parce que je crois que je suis dans les délais.
Ça fait une bonne heure, oui.
Enfin, conclure. Oui, après tout, conclure. J'assume que c'est une conclusion, mais elle ne se termine pas par un point. Ensuite, il y a un débat, comme vous le savez. Par là, je veux dire que je veux simplement donner, mon point de vue et le formuler. Les normes morales et post-politiques de la bonne gouvernance accouchent d'un sujet du marché qui est bardé de droits, au pluriel, et d'émotions morales binaires, bien, mal. Un citoyen consommateur de marchandises, y compris de marchandises morales, dans des sociétés qui sont gérées comme des entreprises, en vue d'une société globale civile, d'une société civile globale constituée de parties prenantes, d'États et de communautés sans frontières ni visages, ni rivages d'ailleurs. Non, il y a des visages, parce qu'avec les selfies, il y en a toujours. Invités à collaborer dans un partage des normes pour une humanité naturalisée et dépolitisée, ayant perdu la pratique du débat, le débat qui est à la base de la démocratie, donc il y a un risque démocratique qui est manifeste, ayant perdu la pratique du débat démocratique et habitué à la gestion à minima des biens communs, eux aussi à minima, c'est-à-dire on les gère à minima, mais ils sont définis comme biens communs à minima aussi. Parce qu'évidemment, on ne peut pas encore privatiser l'air et l'eau. Mais, enfin, l'eau, c'est en partie... mais il y a... les biens communs, on peut les étendre, étendre la surface ou la limiter. La bonne gouvernance, elle permet de passer, me semble-t-il, de l'utopie à l'hygiène, de la transformation à la maintenance et du progrès à la gestion. Finalement, c'est le code de la route du pilotage socio-économique en régime néolibéral, hégémonique. Voilà, j'en ai terminé.